Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. Le duc de Lévis, officier et homme politique français proche du roi Louis XVIII, lui aurait un jour déclaré « Un monarque sans cour est un grand arbre déraciné que le moindre coup de vent renverse ». On peut le constater, les monarques du XIXe siècle français ont cherché à faire perdurer le système des cours, ou peut-être plutôt à le réinventer pour réconcilier deux France, celle inspirée par l'idéologie du progrès et celle encore tout imprégnée de l'esprit de l'Ancien Régime. Ils étaient convaincus qu'un monarque ne tient que par un système curial. Quel exemple, d'ailleurs, le plus flagrant que celui de l'empereur Napoléon. Écrin d'un pouvoir, reflet d'une puissance, vitrine d'un pays, une cour est une structure qui s'apprête en fonction du souverain qu'elle auréole. Elle se redéfinit et évolue sans cesse, mais toujours sur les vestiges des dynasties passées et en fonction des autres cours avec lesquelles elle est en interdépendance. Si les différentes révolutions semblent avoir brisé ou du moins épuisé ces systèmes curiaux, ils ont pourtant été la réalité de bien des contrées pendant bien des époques. Storia Voce vous propose aujourd'hui un tour du monde du faste, du luxe, du politique. Je vous propose de partir à la rencontre des dynasties les plus légendaires, des rois les plus fantasques, des reines les plus capricieuses et des royaumes les plus merveilleux, en étudiant la cour dans sa logique mondiale. Pour cette occasion, nous recevons l'historien Thierry Sarmon. Bonjour Thierry Sarmon.
Bonjour.
Vous êtes archiviste paléographe et conservateur du patrimoine, mais surtout, vous venez de publier un ouvrage ambitieux aux éditions Perrin, intitulé « Histoire mondiale des cours de l'Antiquité à nos jours ». Cet ouvrage, vous l'avez co-dirigé avec Victor Bataguion, rédacteur en chef du magazine Historia. Votre ouvrage, Thierry Sarmon, est un ouvrage de synthèse, un essai d'histoire globale sur le thème des cours. Quand on évoque les cours, on pense quasi systématiquement aux cours royales, aux cours princières, et on imagine un prince, un roi, sa suite, sa famille. C'est d'ailleurs une histoire de famille, comme vous le dites vous-même dans l'ouvrage. Alors, pour commencer, quelle définition donneriez-vous du terme afin qu'il englobe un maximum tous les temps et tous les espaces ?
La cour, c'est l'entourage. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je définirais la cour comme une nébuleuse qui a un centre, le monarque, et puis un certain nombre d'astres qui tournent autour de cet astre central. Le premier cercle, le plus proche, c'est la famille, et c'est l'origine de la cour. Le deuxième cercle, c'est la domesticité. Une domesticité qui va prendre une dimension éventuellement politique avec le temps. Troisième cercle, ce seront les courtisans proprement dit, à savoir des personnages qui peuvent avoir des fonctions, elles aussi domestiques, mais aussi politiques, mais aussi militaires. Puis le quatrième cercle, ça va être tous ceux que dans la France d'Ancien Régime, on appelait les personnes suivant la cour. Ça va être des commerçants, ça va être des artistes, ça va être les visiteurs de la cour, les solliciteurs qui viennent l'entourer. Ce qui fait que vous pouvez avoir des cours très modestes, qui seraient une famille élargie, et à l'inverse, des cours nébuleuses, des cours qui peuvent compter plusieurs milliers d'individus dans leur période les plus faste.
Thierry Sarmon, est-ce qu'on peut faire une typologie des cours en fonction de leur nature, de leur taille, de leur rapport au monarque ?
Parfaitement, on peut faire une typologie des cours. Alors, en suivant d'abord une typologie qui serait par taille, pour moi, la typologie la plus pertinente, ce serait celle qui distinguerait la cour proprement dite, de la cour confondue avec le gouvernement. Dans les sociétés anciennes, il y a fréquemment, majoritairement, confusion entre cour et gouvernement. Et le régime politique moderne consiste le plus souvent à la séparation entre fonction curiale et fonction gouvernementale, avec l'autonomisation du politique par rapport à la cour.
Dans votre ouvrage, donc, vous décrivez l'histoire de plusieurs cours en fonction de différentes dynasties, différents pays. Est-ce qu'on peut donner un chiffre sur le nombre des cours dans l'histoire du monde?
Alors, ce serait dénombrer les monarchies, les systèmes monarchiques, puisque la cour suppose la monarchie. Quand vous avez un gouvernement collectif, il n'y a pas en principe de cour. Dénombrer les monarchies et aussi certains régimes autoritaires où des systèmes d'entourage se rapprochent à ceux des cours, puisque la monarchie tend à, quand on la chasse par la porte, à revenir par la fenêtre. Vous avez les tendances monarchiques dans les gouvernements républicains ou dans les gouvernements dictatoriaux ou autoritaires. Après cela, la cour gouvernement, elle a commencé à s'effacer, on peut dire, à partir du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle en Occident. Mais elle est encore très dynamique dans une grande partie du monde. Je voudrais signaler que quand on se place dans la longue durée de l'histoire de l'humanité, qui a été notre projet, et très largement aussi dans l'espace, on s'aperçoit que le régime politique le plus souvent pratiqué, c'est pas la démocratie, c'est la monarchie. La démocratie est une chose jeune, récente et encore en gestation. Et donc, la cour est en fait un phénomène politique et social très universel et encore très répandu.
Donc elle touche énormément de sociétés,
oui.
Le Japon, la Corée, la Bourgogne, la France.
Et alors, je peux me permettre, nous n'avons pas été exhaustifs,
oui.
Pour reprendre vos questions. C'était difficile d'être exhaustif, puisqu'il y a eu à travers l'histoire des centaines, voire des milliers de régimes politiques différents. Et par ailleurs, il y a des régimes pour lesquels les sources écrites font parfois défaut. Donc, nous avons essentiellement traité de ce qu'on peut appeler l'Eurasie, en laissant de côté l'Afrique noire et les Amériques. Donc, on n'a pas traité des systèmes curieux qui pouvaient exister en Éthiopie ou chez les anciens Aztèques et les anciens Incas. Oh. En son sens, notre histoire mondiale, elle est réduite à ce grand ensemble qui en fait est souvent en communication malgré les distances, qui va de l'ouest de l'Europe au Japon et à l'insule Inde.
Vous venez d'évoquer le choix des cours traités. Donc justement, comment avez-vous procédé? Comment avez-vous fait ce choix? Pourquoi la cour de Bourgogne et pas celle de Bretagne, par exemple?
Voilà. Alors, pourquoi la cour de Bourgogne? Parce qu'elle a eu une généalogie, elle est à l'origine d'une généalogie qui a enfanté la cour d'Espagne et la cour d'Autriche, et elle a eu une influence très importante, on peut dire presque jusqu'à la fin des cours traditionnelles au début du XXe siècle. Alors que la cour de Bretagne a toujours été une cour finalement secondaire, qui était une imitation de la cour de France, et puis elle a cessé d'exister très tôt, à la fin du XVe siècle.
Donc vous avez plutôt choisi en fonction de la durée
et... La durée, la représentativité et les influences exercées très largement. Si je prends l'Orient, la cour de Chine a existé plus de 2000 ans, et elle est le modèle de tout l'Extrême-Orient. Les cours du Japon, du Vietnam, de la Corée reproduisent plus ou moins fidèlement des modèles chinois.
Est-ce qu'on peut reconnaître une cour à des traits spécifiques? Je pense par exemple au palais, au rituel, ou encore à l'importance du sacré. Quels sont selon vous les traits caractéristiques les plus importants?
Ce qui est assez frappant, c'est de constater que ces traits qu'on a cherché à décrire dans l'introduction, ils se retrouvent dans toutes les civilisations, même dans des civilisations qui n'ont pas de rapport constant. C'est-à-dire, par exemple, l'idée qu'il y a un roi ou un empereur, qui est un personnage soit licence divine, soit représentant de Dieu, soit investi par Dieu. Elle est extrêmement répandue, elle est même majoritaire dans l'histoire de l'humanité, à travers les siècles, à travers les temps. L'idée que ce souverain, par exemple, bénéficie d'un harem. Pour nous, le harem, c'est quelque chose qui est devenu un peu étrange. Et en fait, c'était plutôt la pratique majoritaire dans l'histoire humaine pendant des millénaires. Que ce souverain siège sur un trône, qui est dans une salle d'audience où les places sont distribuées en fonction du rang des individus. Toutes ces choses se retrouvent de la Chine à l'Angleterre, de la Scandinavie à l'Empire perse, Et un de nos objectifs, c'était de retracer la généalogie de ces systèmes curiaux, voir quels cours du passé ont pu servir de modèle aux cours plus récentes, et ainsi que les échanges entre cours qui ont été contemporaines les unes des autres.
Alors, quels sont les cours qui ont le plus influencé les autres cours ?
Alors, comme je l'ai dit, en Orient, la Chine, au Moyen-Orient, la Perse, et qui elle-même héritière des cours de la Mésopotamie et de l'Égypte. Et puis, si on s'en tient à l'Europe, le premier modèle, c'est Rome, mais Rome qui emprunte lui-même à la Perse. Rome, puis Byzance, et les deux grandes cours du Moyen-Âge occidental majeures, c'est la cour de l'empereur germanique et la cour de France. Là aussi, un de nos objectifs, c'était de sortir de la vision française, qui consiste à considérer que la France et Versailles sont des modèles européens majeurs et universels. En fait, sur la longue durée, le modèle principal, c'est l'empereur germanique, l'empereur romain germanique, puisque dans le système idéologique du Moyen-Âge, le monarque suprême, c'est l'empereur. Et le roi de France, c'est un peu secondaire. Et il n'est devenu l'égal, le quasi-égal de l'empereur que parce que l'Empire germanique s'est plus ou moins décomposé au cours du Moyen-Âge, tandis que le Royaume de France devenait l'État centralisé et presque jacobin avant l'heure que nous connaissons et dont nous sommes les héritiers.
Oui, en fait, comme si la cour de France, qui était annexe à celle de l'Empire, était devenue
majeure à partir du... Majeure, on peut dire, la bascule, c'est le XIIIe siècle, avec le prestige de Saint-Louis, roi chrétien, roi qui va à la croisade, roi qui étend le domaine royal, et dont on dit qu'il est le roi des rois de l'Europe. Vous voyez, donc, et c'est aussi le moment où les juristes français créent cette formule « le roi de France est empereur en son royaume ». C'est bien revendiquer une égalité par rapport à l'empereur germanique. Mais la différence, c'est que l'empereur est un roi apte à créer des rois, tandis que le roi de France ne crée pas de roi. Il reste quand même cette petite distinction jusqu'à la fin du Saint-Empire.
Oui, et alors vous avez donc vous-même rédigé certains chapitres de l'ouvrage, d'autres sont rédigés par d'autres historiens ou conservateurs. Il y en a un donc sur les cours allemandes, scandinaves et balkaniques, et donc pour rebondir sur ce que
j'y
vous dites...
J'y ai participé avec Madame Paoli.
Voilà, tout à fait. Vous parlez de réduction de la cour impériale au sujet de ces petites cours, et alors je vous cite... vous dites « L'observation des cours allemandes, scandinaves et balkaniques permet de mieux comprendre les phénomènes d'imitation qui parcourent l'histoire curiale européenne. Il existe entre les cours une hiérarchie explicite ou implicite et les petites imitent les grandes, avouant leur provincialisme en y cherchant à y échapper. Vienne, Versailles, les Tuileries, Londres et Saint-Pétersbourg sont les phares qui éclairent les scènes monarchiques secondaires. » Alors, comment on en vient à justement ce processus de hiérarchie?
Alors,
hormis...
La première phase, ce serait que l'empereur est le souverain de l'Empire. Et petit à petit, les ducs, les princes de l'Empire deviennent des espèces de souverains de second ordre. Mais ils se souviennent que leur suzerain seigneur, c'est l'empereur. Bon. Et le prestige majeur est de l'empereur. Donc ils vont avoir tendance à imiter l'empereur, dont la résidence devient à partir du XIVe siècle Vienne. Donc ils imitent l'empereur d'un côté, mais par ailleurs tous ces souverains ils concluent des alliances matrimoniales soit entre eux, soit avec des princes italiens, soit avec la France, et par le biais des mariages et des voyages, d'autres modèles que ceux de la cour impériale prévalent. Modèle italien, modèle des cours italiennes, très prestigieuses, que c'est dans les cours italiennes que naît la Renaissance, dans la Renaissance des arts, des sciences, des lettres. Et puis modèle français, puisque ce qui fascine les Européens pendant une grande partie de leur histoire, c'est que la France, c'est le pays de l'État et du roi tout-puissant. C'est le pays où les gens paient des impôts sans discuter. Vous voyez que rien n'est changé.
Ça ne change pas beaucoup.
Et donc le roi de France, c'est le plus puissant de tous les rois de l'Europe. Même si initialement, il n'avait pas le prestige romain lié au titre impérial. Donc, il y aura une imitation, et alors ces différentes influences se mêlent, et je cite à un moment, quand l'électeur de Brandebourg devient roi de Prusse, eh bien, la cérémonie du sacre va imiter celle du sacre du roi d'Angleterre, qui est un roi protestant, comme l'électeur de Brandebourg. Les grands offices de sa cour sont des grands offices de tradition germanique, donc qui imitent celle de l'empereur. Mais à côté de ça, vous aurez des bâtiments sous influence française, et puis on fera venir des protestants français qui ont fui la révocation de l'édit de Nantes, qui vont devenir les précepteurs, les gouvernantes, les conseillers politiques. On aura les costumes qui seront imités de la France, et ainsi de suite. Et dans toutes les cours allemandes, vous allez trouver ce mélange d'influences à la faveur des voyages, à la faveur des lectures des livres aussi, ou des recueils d'estampes, et puis à la faveur surtout des mariages, qui sont des grands vecteurs de transfert culturel.
Oui, en fait, il y a des vraies connexions et il y a plus de sociabilité entre les différentes cours qu'entre peut-être une cour et les sujets du pays duquel elle était.
Alors,
à la tête.
C'est aussi une variable, c'est-à-dire suivant les monarchies, il y a une accessibilité plus grande du prince et une séparation plus ou moins grande entre le prince d'un côté et les sujets de l'autre. Par exemple, en France, tout le monde peut aller, pourvu qu'il soit vêtu proprement, peut aller à Versailles, regarder le roi prendre son dîner, puisqu'il dîne en public. Dîner, ça, à l'époque, c'est le déjeuner. Alors que dans les pays germaniques, le déjeuner public n'a lieu que dans des circonstances beaucoup plus exceptionnelles. Et l'étiquette sépare bien davantage le souverain de ses sujets. Et puis, les cas extrêmes, c'est des monarchies plus sacrées, comme la Chine ou le Japon, où là, le souverain est un personnage tout à fait renfermé, que ses sujets n'aperçoivent que dans des circonstances très particulières et très rares.
Vous venez d'évoquer donc le sacré, et j'aimerais revenir dessus. Quelles sont les cours où le sacré a le plus de place, et quel est l'impact sur le fonctionnement de la cour ?
Alors, ce sont les cours où le souverain est le plus associé, directement associé à la divinité, dont il tire la légitimité de son pouvoir. Alors, si je reprends l'exemple de la Chine, en Chine, l'empereur est le détenteur du mandat céleste. Alors, il n'est pas un dieu lui-même, mais d'abord, il n'y a pas de dieu majeur, de dieu unique dans le panthéon taoïste, mais il y a une forte charge sacrale de l'empereur. Et ça amène une cour extrêmement ritualisée, puisque la cour et le palais empruntent finalement leur disposition et leur rite au temple, à la religion. Hein. C'est quand même le lointain antécédent. Si je prends la France qui nous est familière, le roi de France, il est réputé le lieutenant de Dieu sur terre. Une grande partie des cérémonies publiques à laquelle il participe, ou des cérémonies quotidiennes, ce sont des offices religieux ou des processions. Le roi de France, il a ce pouvoir dit thaumaturgique de toucher les écrouelles. C'est-à-dire les écrouelles, ce sont ces maladies de peau qu'il est censé guérir en imposant la main sur elles. Et c'est un pouvoir dont il est censé jouir depuis le haut Moyen-Âge et qui sera exercé pour la dernière fois par Charles X, donc le dernier roi de France légitime.
Qui dit cour, dit société de cour, c'est un terme que vous utilisez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qui se cache derrière ce terme ?
Alors, c'est pas une expression que nous avons inventée, nous l'avons empruntée à Norbert Elias, qui a écrit un ouvrage du même nom. La société de cour, c'est le fait que la cour est le lieu où se déroule ce qu'on appelle un processus de civilisation. Alors, c'est le centre des arts, des lettres, des sciences, c'est là où ce qu'on appelle la grande culture s'est forgée. Les grands peintres du XVIe siècle au XIXe siècle sont des artistes qui travaillent essentiellement pour les cours. Les grands musiciens sont des musiciens de cour. Mozart était compositeur pour prince-archevêque de Salzbourg, puis pour l'empereur d'Autriche. Velázquez, c'était le peintre du roi d'Espagne. Molière, c'est le comédien de Louis XIV. Et par ailleurs, la cour est le lieu où se joue aussi un processus de diminution de la violence des élites, où le rôle des femmes est important, et où se crée la civilisation moderne, la civilisation des manières, des mœurs, de la politesse.
Oui, c'est en fait la vitrine de la civilisation propre à un pays, Et finalement, l'acmé, enfin le...
C'est aussi une vitrine. Alors, c'est une vitrine de la puissance du monarque. Mmh. Et puis aussi, c'est considéré comme une sorte de réduction de microcosme, qui est une réduction du pays tout entier. D'ailleurs, sous Louis XIV, quand on dit toute la France, quand on parle de toute la France, on veut dire toute la cour. Mmh. Mais toute la France a admiré la naissance de Monsieur le Dauphin, ça veut dire la cour a admiré. C'est vraiment l'idée que la cour est l'image du pays. Mais ça, cette idée-là, cette assimilation, elle va évidemment éclater au XVIIIe siècle.
Donc c'est à la fois un relais du prestige du roi donc, à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays. Et c'est l'idée du chapitre d'Alexandre Maral qui parle de la cour de France comme celle qui donne le ton à l'Europe. Pourquoi la cour de France donne le ton à l'Europe ? Est-ce qu'on est dans le cliché historiographique ?
Alors, pas exactement, parce que donc, la cour de France bénéficie du fait que le roi de France, comme je l'ai dit, est souvent le plus puissant pour des raisons fiscales et militaires depuis le XIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Et par ailleurs, que depuis le XIIIe siècle, Paris, qui reste la ville liée à la cour, même quand la cour n'y réside pas, Paris est un des principaux centres européens de l'industrie du luxe et de la mode. Et ça reste vrai aujourd'hui, c'est la seule industrie française qui soit bénéficiaire sur la longue durée, c'est l'industrie du luxe. Et donc, les grands commanditaires des objets de luxe sont à la cour. Et de même que les modes se renouvellent à partir de la cour. Et il y a un rayonnement des arts du luxe français et de la mode française à partir de la cour de France. Donc, il y a un moment où l'Europe entière s'habille à la française.
Oui, et d'ailleurs, jusqu'en Russie, il y a eu des répercussions
Et ça restera, et ça restera vrai, même après la disparition des cours, la mode européenne se fera à Paris, on peut dire jusqu'aux années 50.
Ouais. Et la mode française a toujours...
Et elle reste prestigieuse.
Vous avez également écrit un chapitre, Thierry Sarment, sur la cour de Perse, qu'on connaît moins. On connaît bien la cour de Versailles, mais on connaît moins la cour de Perse. Des Achéménides au Pallavi, reprenez-moi si je m'explique mal.
Oui, alors ça m'a paru indispensable parce que c'est une cour qui est très importante dans la généalogie des cours. Donc c'est une cour qui commence dans la Haute Antiquité, qui hérite des premières cours sacrales d'Égypte et de Mésopotamie, puisque les Perses ont conquis successivement Babylone, la Syrie... et l'Égypte. Donc elle hérite de ce système de monarchie sacrée avec ce roi un peu divinisé qui trône. Et en même temps, la Perse, malgré de grandes vicissitudes, a une très longue durée historique. Et elle a servi à transmettre ce modèle de monarchie sacrée à Rome, à Byzance, puis aux monarchies islamiques. Pourquoi ? Parce que d'abord, la Perse a été le seul État que Rome n'ait pas réussi à vaincre. Donc Rome est restée pendant 4 siècles en contact constant avec l'Empire perse, qui était son principal rival, mais avec qui il y avait des échanges très, très récurrents. Et Byzance, qui est l'Empire romain d'Orient, s'est trouvé dans la même situation. Et quand l'Empire romain s'est transformé en monarchie, eh bien, il a repris les modes de présentation du monarque et d'étiquette qui étaient ceux de la Perse antique.
Et donc un retentissement beaucoup plus important qu'on l'imagine.
Tout à fait. Et de même, quand les califes, qui au départ étaient des personnages essentiellement religieux, à la fois c'était des leaders religieux et des conquérants, se sont transformés en monarques, ils se sont fondus dans le moule de l'empereur perse sassanide.
Alors, comment
ils avaient vaincu.
Comment et pourquoi elle se termine cette
cour ? Alors, elle se termine très tard, elle se termine il y a à peine 30 ans, avec la chute du dernier shah, Mohamed Reza Pahlavi. Et alors là, on arrive en fait à un phénomène intéressant, c'est la résurgence des cours et leur occidentalisation. Mohamed Reza Pahlavi se voulait à la fois l'héritier des anciennes dynasties perses, depuis les Achéménides, depuis Cyrus, depuis Darius, mais en même temps, C'était un homme profondément occidentalisé qui parlait le français comme vous et moi, qui avait été élevé en Suisse au pensionnat Le Rosay et qui était très inféodé aux Américains. Et en fait, il s'est trouvé un peu dans cette situation d'être partagé entre deux mondes, à la fois iranien d'un côté et européen de l'autre. Et il s'est se fait couper de ses sujets, ce qui fait que son entreprise de modernisation, Reza Shah, c'est un peu un personnage, c'est un peu un Pierre Legrand qui a échoué, si vous voulez. Il a voulu donc lancer son pays dans cette entreprise de modernisation, mais en coupant trop radicalement avec les racines du passé islamique de son pays. Il est devenu une sorte d'étranger dans son propre pays. C'est un peu le piège de l'occidentalisation.
Oui.
Et il a suscité un phénomène de rejet qui a entraîné sa chute. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est de voir 10 ans avant la révolution islamique de 79, ou 12 ans, ces fastes de son couronnement, ou les fêtes de Persépolis, qui évoquent à la fois les grandes fêtes de l'Antiquité, mais aussi des fêtes à la française. Il y a quelque chose de tragique dans cette espèce de mélange de traditions curiales qui, finalement, a été rejetée par le peuple iranien.
Alors, vous venez d'évoquer Pierre le Grand, qui, lui, donc, a constitué une cour, si je me rappelle bien ce que vous expliquez dans votre ouvrage, en choisissant, en fait, ses proches en fonction de leurs compétences, et donc recréer un État moderne en recréant une cour, et qui aurait une transformation, en fait, du gouvernement, enfin, plutôt une évolution du gouvernement, quasiment directement héritée de la transformation de la cour. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots?
Alors, Pierre le Grand, c'est aussi un grand réformateur. Donc, ce serait un Reza Shah qui aurait réussi, si je renverse ma formule. Pierre le Grand donc, héritait d'une longue tradition étatique et curiale moscovite. Mais la Moscovie était un pays très coupé du reste de l'Europe. Et lui, il a commencé par constituer un entourage autour de lui sur un mode assez nouveau. Il y avait à la fois les aristocrates traditionnels, mais aussi des membres de la petite noblesse, et aussi des étrangers, des techniciens étrangers, et puis des gens de très basse naissance dont il a fait les favoris. Donc il jouait sur toutes les catégories sociales possibles, de façon à rester le maître. C'est un processus de pouvoir. Bien. Et ce groupe, il l'a peu à peu organisé en une cour sur le modèle occidental. Alors, c'est un phénomène de longue durée qui se déroule sur une trentaine d'années. Mais à la fin du règne, eh bien, il crée des charges de cour, des grands chambellans, des grands écuyers, des grands veneurs, sur le modèle, un modèle essentiellement emprunté à l'Empire germanique. D'ailleurs, les noms des charges sont des noms allemands. Le grand maître de la cour, c'est le Hofmeister. Vous voyez qu'on est dans un mode germanique. Ça reste encore très, très formel. Et puis, par ailleurs, il y a aussi cette idée que la cour est le lieu de la civilisation des mœurs. Et notamment, il crée ce qu'on appelle les assemblées, il prend le mot français, et en fait, il cherche à acclimater les salons parisiens dans un pays où jusque-là, les hommes et les femmes étaient entièrement séparés. Donc vous voyez, la cour, c'est à la fois un mode de gouvernement et un mode, on peut dire, de domestication de la noblesse, comme disait pour Louis XIV, mais aussi de transformation de la société et de l'État.
Vous avez parlé des femmes, je me permets de rebondir. Dans votre introduction, vous dites que la cour est aussi le lieu du pouvoir féminin.
Oui, parce que comme la cour, au départ, c'est la famille. Dans la famille, il y a les femmes. Et les femmes, elles ont ce rôle majeur d'assurer la pérennité d'une dynastie. Donc, elles arrivent par ce biais à regagner du pouvoir, même quand le système politique et social les considère comme d'éternels mineurs. Et donc, dans toutes les sociétés, même les plus hostiles aux femmes, vous allez vous retrouver avec des femmes assurant la régence, voire même parvenant à assumer le pouvoir. Vous avez eu une Chinoise qui est devenue impératrice régnante. C'est arrivé qu'une fois tout de même. C'est arrivé. Vous avez eu plusieurs impératrices japonaises. Vous avez eu des reines régentes et des reines régnantes en Europe. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que ce phénomène s'accélère à partir du XVIe siècle. Et alors, on peut l'expliquer aussi par un très lent changement de la condition féminine à partir de la Renaissance, qui est imperceptible du point de vue juridique, mais on peut le remarquer par le fait qu'il y a de plus en plus d'auteurs antiféministes, avant même qu'il y ait du féminisme, notamment un des topos, c'est de dire la cour est un lieu de pouvoir féminin, c'est négatif, le rôle des femmes en politique est toujours funeste, Mais c'est bien la preuve qu'il y a une sorte de longue pente ascendante du rôle des femmes, avant même les transformations que nous avons connues au 19e siècle, et puis surtout au 20e siècle, qui sont très récentes finalement. Mais ces transformations qui sont accélérées dans les 50 dernières années, elles étaient en gestation depuis 4 ou 5 siècles.
Oui, puis elles avaient un pouvoir qui était peut-être plus dans l'ombre.
Plus dans l'ombre. Alors, même dans les pays musulmans, la mère du souverain ou son épouse favorite peut avoir un rôle important, mais elle est quand même très limitée par le fait qu'elle est cloîtrée.
Oui.
Et donc, il lui est difficile d'avoir des idées de grande politique en restant enfermée dans un harem. Voilà.
On parlait tout à l'heure du lien entre le religieux et le royal. Les cours, ce n'est pas seulement pour les chefs politiques, mais également pour les responsables religieux. Il y a un chapitre de votre ouvrage qui est consacré à la cour pontificale, donc rédigé par Jean-Yves Borio, spécialiste de la Renaissance italienne. Quelle est la spécificité de cette cour pontificale, et depuis quand existe-t-elle?
C'est une cour religieuse, donc, comme vous l'avez dit. C'est une cour qui, elle aussi, a des centaines d'années, voire maintenant plus de 1000 ans d'existence. Elle est spécifique d'abord par le fait qu'elle a à sa tête un monarque électif et non héréditaire. Bien, même s'il y a parfois des dynasties de cardinaux, donc le neveu, et des papes qui se succèdent dans la même famille. Bon. Et alors, sa spécificité, c'est qu'elle est au service du sacré, donc le rite, il tient, et l'étiquette y ont un rôle fondamental, et puis elle est un conservatoire extraordinaire des traditions les plus antiques. J'inciterai nos auditeurs à aller sur YouTube regarder quelques vidéos représentant les cérémonies du Vatican avant le concile de Vatican II. Vous voyez le souverain pontife promené sur un palanquin, sur un trône, qu'on appelle la sedia gestatoria, et il est entouré de tout un cortège de militaires chamarrés, de personnages ecclésiastiques, de princes de la noblesse romaine, et il y a autour de son trône deux personnages qui tiennent de grands éventails en plumes d'autruche, c'est ce qu'on appelle les flabella. Et les flabella étaient déjà en vigueur dans l'Empire romain tardif au IVe siècle. Donc la cour pontificale maintient des usages qui sont ceux de la Rome tardive, jusqu'à très récemment, des usages qui sont ceux de l'Empire romain tardif.
En fait, il y a aussi, du fait que ces cours se perpétuent, une conservation des traditions.
Parfois, il y a aussi invention de la tradition.
Oui.
Mais là, dans la cour romaine, ce qui est fascinant, c'est la pérennité de très antiques traditions qui viennent parfois de la très haute antiquité, voire du haut Moyen-Âge, et ainsi de suite. Bon, je reprends les gardes suisses, leur uniforme a été dessiné par Michel-Ange.
Et donc cette cour a beaucoup évolué et
récemment.
Son
évolution récente est très. Il y a une sorte d'accélération de l'histoire, mais qu'on rencontrerait dans d'autres phénomènes. Et on peut dire qu'elle a beaucoup plus changé dans les 40 ou 50 dernières années que dans les 500 années précédentes.
Oui, en fait, les années 60 ont un peu été la révolution.
On a supprimé la sedia gestatoria, on a supprimé les flabella, ce que les historiens vont déplorer, bien sûr. On a supprimé les princes qui entouraient le pape, puisqu'on est dans une vision beaucoup plus égalitaire. Du moins, on a supprimé toutes sortes de cérémonies et d'ornements. On a supprimé la tiare, parce que le pape portait une tiare à triple couronne qui était un symbole de son pouvoir temporel et spirituel tout à la fois. Et pour autant, cette curie reste un organe où politique et fonctions curiales sont encore bien mêlées et elle reste très ritualisée.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des cours qui subsiste?
Ah oui, elle subsiste. Elle subsiste parfaitement.
Oui. Ouais. Donc Charles-Éloi Vial est un autre historien qui écrit dans votre ouvrage et lui, il va parler des cours après la Révolution. On voit que la Révolution française a effectué évidemment en France une grosse rupture, tout comme il semble que la Révolution islamique en Iran effectue de la rupture par rapport donc à l'évolution de la cour. C'est la Révolution en fait qui provoque la fin de ces cours.
Alors, la Révolution française. Il y a certaines révolutions ont conservé les cours. En Angleterre,
oui.
Et la glorieuse Révolution de 1688 a conservé la cour. En France, la grande Révolution, c'est le grand rift, c'est la grande rupture. de l'histoire de France, vous l'avez dit, et c'est la disparition physique de la cour avec la, la mort du roi et même la, l'élimination physique d'une grande partie des tenants des grandes charges de cour ou leur exil. Bon. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que les monarchies du 19e siècle tentent de ressusciter la cour de façon ex nihilo parce qu'elles sont, convaincues de leur utilité et de leur rôle de prestige. Alors le plus fascinant, c'est l'entreprise faite par Napoléon Bonaparte pour créer ex nihilo, recréer ex nihilo une cour. Et pour la créer un peu comme une administration ou même une administration militaire, c'est-à-dire qu'il y aura des règlements écrits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les tenants de grands offices de cour seront dotés d'uniformes de cour, ce n'était pas le cas auparavant, et on aura une vie très réglementée par des recueils d'étiquettes imprimées, ce qui donnera à cette cour un ton assez particulier, assez empesé, dont se plaindront ceux qui la fréquentent.
Et puis Napoléon, il va aussi essayer de diriger les cours européennes comme pour... Enfin, il reconstitue un empire, donc il veut refaire de la cour de France une cour majeure.
Évidemment, c'est-à-dire, il imagine que les royaumes qui sont confiés, qui sont des royaumes vassaux confiés à ses frères ou à des membres de sa famille, vont avoir des cours organisés sur le modèle français et sur un système tout aussi autoritaire et artificiel.
Donc, refaire en fait remettre en projet les projets des empereurs.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Napoléon, qui est un fils des Lumières, il croit à l'aspect de à l'efficacité presque magique du système curial. Il est persuadé que c'est un renfort pour son pouvoir. Ce qui, avec la distance du temps, nous paraît pas une analyse vraiment judicieuse. Mais c'est resté un phénomène artificiel.
Oui, mais la cour reste une vitrine, en fait.
C'est une vitrine, et d'ailleurs, les voyageurs étrangers qui se rendent à Paris dans les années 1800-1810 sont assez admiratifs de cette cour étrange, artificielle, mais très fastueuse.
Thierry Sarment, dans votre introduction, vous décrivez les cours du XXIe siècle comme des institutions modestes, des survivances fragiles d'un ordre déchu. Quels sont ces cours du XXIe siècle ?
Alors, l'expression, elle vaut surtout pour les monarchies constitutionnelles européennes qui sont condamnées à une certaine discrétion. D'abord parce que les idées égalitaires ont progressé, les moyens financiers ont baissé, puis... Peut-être que le goût aussi des monarques et des familles royales se rapproche plus de ceux de la jet set que des modes de vie extrêmement contraints des générations précédentes. On n'est plus à l'ère victorienne. Donc, d'où modestie, discrétion relative. Après, il faut se méfier des effets de médiatisation. C'est-à-dire que toute la communication des familles royales européennes est fondée sur l'idée qu'elles sont des familles comme les autres. Ce qui est évidemment une parfaite contre-vérité, puisque les moyens dont elles disposent, leur mode de vie, leur mode même de pensée, sont assez différents. Ce qui caractérise un souverain, c'est que dès l'enfance, dès les premiers mois, il sait qu'il est différent des autres hommes. Et je ne suis pas certain que ce soit totalement différent entre le temps de Louis XIV et celui d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il reste des cours à l'ancienne ou s'il n'en reste pas, quelle est la cour qui ressemble le plus ?
Alors, il y a des cours à l'ancienne, mais qui seraient plutôt hors d'Europe, dans le monde musulman ou dans le monde dépendant de l'hindouisme. Je pense à la Thaïlande, je penserais au sultanat de Brunei, je penserais à l'Arabie Saoudite. Alors, c'est des cours qui nous sont mal connus parce qu'elles sont plus discrètes, elles sont moins médiatisées. Mais il y a encore des cérémonies d'allégeance, il y a encore la construction d'immenses palais. La composition, le fonctionnement exact de ces cours, il nous est assez occulte.
Oui, les cours qu'on connaît, finalement, ont très peu à voir avec...
C'est vraiment autre chose, parce que là, en plus, on est dans des régimes politiques où le monarque reste un monarque plus ou moins absolu. Et où la confusion entre cours et gouvernement reste puissante. Un cas intéressant, c'est le Maroc. 62, le pouvoir était dans ce qu'on appelle le magzen, qui est la cour, et le gouvernement était une antenne du magzen. Et là, on est actuellement dans un système où le gouvernement tend à prendre une certaine existence autonome, comme en Europe, mais où le Maghzen subsiste. Mmh. Il y a une tension entre Maghzen et gouvernement.
Même si les cours ont disparu, on peut s'amuser à analyser nos gouvernements actuels et constater en fait les vestiges qui continuent à habiter l'étiquette, les protocoles de nos démocraties libérales. D'ailleurs, le titre d'un de vos chapitres qui est le prologue, c'est « De l'étiquette de cours au protocole républicain ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Thierry Sarmat ?
Alors, comme je l'ai dit avant, la forme de gouvernement la plus naturelle de l'humanité, c'est la monarchie. Bon. Et donc, alors, de temps en temps, on se débarrasse de la monarchie, on crée des régimes démocratiques ou oligarchiques ou républicains. Mais cette monarchie, chassée par la porte, revient par la fenêtre. Et vous, on voit se dessiner des tendances monarchiques dans les gouvernements républicains, qu'ils soient monarchiques, qu'ils soient, pardon, démocratiques ou autoritaires. On voit des tendances à l'hérédité. Par exemple, dans les régimes communistes, c'est assez flagrant et comique de voir la Corée du Nord, les pays d'Asie centrale. On voyait aussi en Roumanie le couple Ceausescu. Ouais. Le gouvernement familial est quelque chose d'assez naturel. Bon. On voit aussi se dessiner dans les régimes républicains une tendance à la monarchisation du pouvoir exécutif. Alors, on en parle beaucoup en France, peut-être en exagérant le phénomène, mais on le voit aussi aux États-Unis, où le président, finalement, il est aussi l'héritier d'anciennes fonctions qui étaient celles du roi d'Angleterre jadis. Mmh. Un droit très intéressant, c'est le droit de grâce, qui est le droit de faire grâce, qui existe pour le président de la République française ou pour le président des États-Unis. C'est un droit royal qui a été transféré à ce magistrat qui est le président. Les présidents actuels habitent dans d'anciens palais monarchiques. Président de la Russie au Kremlin, le président de la République italienne au Quirinal, qui a été à la fois un palais royal et un palais papal. Et l'Élysée a été un palais de Napoléon Ier, puis de Napoléon III.
Donc même dans les espaces géographiques...
La trace monarchique subsiste, et dans beaucoup d'usages protocolaires... Un ethnologue pourrait reconnaître des subsistances monarchiques très, très anciennes. Si vous allez sur les tombes des pharaons, vous voyez des grandes scènes de chasse. La chasse, c'est une activité monarchique par excellence. Et vous avez encore des chasses présidentielles en France, jusque sous François Mitterrand.
Merci beaucoup Thierry Sarmont d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour Storia Voce, je rappelle à nos auditeurs donc le titre de votre ouvrage, Histoire mondiale des cours de l'Antiquité à nos jours, que vous avez donc co-dirigé avec Victor Bataguion et que l'on peut trouver donc aux éditions Perrin. Je terminerai cette émission par vos mots. Vous vous exprimez ainsi dans votre ouvrage, donc la cour au luxe ostentatoire peut faire hurler l'opposition politique. Mais elle continue aussi de faire rêver, car elle n'est pas seulement la vitrine d'un pouvoir, elle est aussi celle d'une nation ou d'un pays. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.